D'après aussi tous les points que vous avez eus ces dernières soirées, d'après aussi l'ensemble en général des sources de la tradition juive à ce sujet, apparaît une explication assez permanente. C'est qu'il s'agirait, je reprends ici une des formules de M. Rovski l'autre soir, citant Maïmonide, il s'agirait d'un monothéisme dégradé. Il s'agirait d'une sorte de renoncement à la relation directe, sans médiation, avec le Dieu unique connu dans la cohérence de l'enseignement biblique comme le Créateur, et une sorte de renoncement à cette relation directe faisant apparaître, soit dans le registre de la représentation que la conscience humaine se fait de son idéal religieux propre, et là l'équation personnelle de chaque culture, à la limite de chaque individu, joue un rôle important, soit dans la perception de médiation intermédiaire à travers les phénomènes de nature, des forces naturelles mais divinisées, des forces cosmiques dans certaines théogonies mais divinisées, qui sont médiatrices entre ce Dieu unique que, avec le temps, on finit par oublier, mais qui est très loin dans la conception païenne. Cette référence au Dieu unique, au Dieu authentique, dans cette thèse du monothéisme dégradé, donne sa force divine et religieuse à l'expérience païenne elle-même. Mais il y aurait là, si vous voulez, le principe d'explication d'une sorte de authenticité éclatée, en diasporisée, si j'ose dire, en autant de divinités partielles, qui finissent par faire écran avec l'idée du Dieu unique, connu dans la tradition biblique comme étant le Créateur et non pas n'importe quelle autre force divine dans le monde. Et à la longue et avec le temps, on oublie le Dieu unique, l'être Elahad et Elahim, selon l'expression araméenne qui est employée dans le livre de Daniel, le Dieu des dieux, et finalement les dieux cachent Dieu. C'est en général le type d'explication assez classique que nous trouvons lorsque nous posons la question comment la tradition juive s'expliquerait, non pas dans un type d'explication minimisant, méprisant, introduisant le mépris, c'est-à-dire parlant d'expériences religieuses dévoyées, ce qui peut être aussi le cas dans la réalité de l'existence, mais essayant d'expliquer en bonne part comment elle a pu arriver un phénomène aussi universel que l'humanité, dans son propos de l'expérience religieuse, tombe dans le paganisme, tombe dans le polythéisme, tombe, selon les catégories hébraïques, dans la avodazara, l'aliénation à l'autre. C'est une expression qui vous a été citée dans ces dernières soirées, littéralement le service étranger, le service autre, et ou avodat elohim, l'asservissement aux idoles, c'est-à-dire à ces représentations qui sont censées représenter en sens simple du terme tel ou tel aspect de force du sacré. Je ne voudrais pas trop m'étendre sur ces descriptions. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en citer une parmi d'autres grandes références, celle que nous donne le Rav Chaim de Vologine dans son livre Nefesh HaChayim. La référence se trouve au Shahar Gimel, c'est-à-dire la troisième partie du livre, à la page Lamed Aleph, Lamed Bet, c'est-à-dire 31-32 en chiffre hébraïque, 62-63 en chiffre, je peux dire, arabe, romain, en chiffre arabe. Mais je voudrais d'abord que nous suivions ensemble une exégèse assez rapide de l'enseignement de Rashi sur le premier verset qui fait allusion dans le récit biblique simultanément à l'apparition de l'invocation du vrai Dieu et du début de l'histoire religieuse de l'humanité par le paganisme. Ceux qui se souviennent de l'exposé de M. Rovski se rappellent qu'il avait situé, relié, en opposant le premier moment de l'explication de Maïmonide, qu'en réalité il y avait eu monothéisme originel qui s'est dégradé en polythéisme, et d'autre part l'explication de type analytique freudienne, selon laquelle ce serait au contraire le polythéisme, le paganisme qui serait originel, et que l'accès à l'idée monothéiste serait tardive et serait une conquête de la conscience humaine. Bien que ce langage que je viens de citer de l'analyse analytique, psychanalytique soit immanentéiste, à la limite d'un univers culturel athée, il me semble personnellement, j'essaierai de l'appuyer sur cette première lecture de Rashi, que la tradition juive dirait plus aisément comme Freud que comme Maïmonide dans cette citation. Ça peut être paradoxal. Mais nous allons voir ici la thèse de Rashi sur le verset 26 du chapitre 4 de la Genèse. Voici ce qui se passe. Il y a d'abord une première filiation humaine qui nous est racontée dans les généalogies de Adam Arishon, le premier homme, Caïn et Abel. Cette première tentative de l'histoire humaine, c'est ce qu'on pourrait appeler en termes de pastiche biblique, si vous voulez, l'humanité caïnitique de Caïn. Une tentative de civilisation humaine fondée sur le principe de la suppression d'autrui, de la suppression du principe de la dignité d'autrui. Caïn tue Abel et c'est ainsi qu'il fonde sa société. Il y aurait là, si vous voulez, ce que des mythes fondateurs d'autres traditions ont repris, par exemple le mythe de Romulus et Rémus, et où nous voyons le mythe romain, où nous voyons la cité fondée par le meurtre du frère. Un problème extrêmement important de l'histoire de l'humanité. De sursis en sursis donné à cette humanité, finalement nous arrivons au jugement qui mène à la catastrophe du déluge, dans la cohérence du récit biblique. Et ce serait peut-être l'objet une fois d'un séminaire intéressant d'étudier les sursis donnés à l'humanité lorsqu'elle est sur le chemin de la chute. Maintenant, nous comptons dans le récit biblique sept sursis donnés à l'humanité de Caïn. En fin de compte, il y a une saturation de violence telle que la sanction du déluge apparaît. Mais entre-temps, un de ces sursis considérables dans sa portée était le fait que le Créateur suscite que le premier homme engendre une autre lignée humaine que la lignée de Caïn. C'est la lignée de Cheth. Et cette généalogie de la lignée de Cheth nous est racontée à partir de la fin du chapitre 4 et surtout dans le chapitre 5 de la Genèse. Je vous lis ces premiers versets, mais nous arrêterons plus particulièrement sur le verset 26. Et à partir du verset 25, cela suffit je pense, après qu'on nous ait indiqué le sursis donné à les sursis qui seront donnés à l'humanité de Caïn, la Bible dit ceci. Vayedar Adam od et ishto. Et Adam connut encore sa femme. Vatelet ben, elle enfanta un fils. Vatikra et Shemo Cheth, et elle nomma son nom Cheth, car dit-elle, c'est moi qui ajoute, dit-elle, qui chatli Elohim, car Dieu m'a donné de façon stable, en hébreu, cette racine, Cheth, Chit, Chat, signifie stabiliser, quelque chose de stable. Tashtit. En hébreu moderne. Ce nom indique que l'identité de Cheth sera une identité stable, je veux dire, non pas vulnérable, comme était celle de Abel. Et nous allons voir par la fin du verset qu'il va prendre la fonction qu'aurait dû avoir Abel dans l'humanité des hommes, supprimée par Caïn, mais de façon moins vulnérable, de façon beaucoup plus stabilisée. C'est la fin du verset. Qui chatli Elohim zera acher, car Dieu m'a stabilisé. J'entends bien que la traduction en français est un peu approximative, mais retenez surtout l'idée. Et installé, mais de façon stable, zera acher, une postérité autre, tahat hevel, à la place de Abel, qui harago Caïn, car Caïn l'avait tué. Harago, c'est plus que tu l'as harog, c'est plus que tu es massacré, assassiné. Et quelle était la fonction de Abel, qu'Abel aurait pu avoir dans l'humanité première, dans la première tentative de l'humanité selon le récit biblique? Il avait la fonction du frère, il naît comme frère. Il avait la fonction du frère qui est la fonction du berger, c'est-à-dire à la limite la fonction sacerdotale. La civilisation était celle de Caïn, mais elle aurait eu une dimension sacerdotale d'une lignée des sauveurs de la civilisation, qui aurait été la fonction de Abel. Abel étant supprimé, eh bien, en fin de compte, est suscité une autre lignée humaine, celle de Enoch, qui est dite, celle de Cheth, qui est dite à l'image de Adam, alors qu'il n'est pas dit de Caïn qu'il était à l'image de Adam. Et vous le verrez dans le détail du récit biblique. Betsalmo, à son image. Et Adam étant lui-même à l'image du projet divin pour l'homme, c'est-à-dire que Cheth est un type d'humanité beaucoup plus proche du projet du Créateur que ne pouvait être Caïn. Dans le langage de Judas Lévi, traitant de ce problème dans le Kuzari, c'est celui par qui passe le Inyan Aeroki, le souci de Dieu qui s'incarne, qui se réalise, si vous voulez, en fin de compte dans l'histoire, dans le projet sacerdotal donné à la société d'Israël au milieu des nations. Ce couple Israël les nations est déjà d'une certaine manière préfiguré dans cette préhistoire par le couple Caïn-Abel, mais il y a eu suppression de Abel et la civilisation de Caïn s'est développée sans Abel, sans berger si j'ose dire, et elle est arrivée à saturation de violence, mais un sursis l'est suscité, c'est cette lignée des bergers, si j'ose dire, des pasteurs, pour donner un sens plus symbolique, que serait la lignée de Shep. C'est là que je prends le récit. Verset 26, « Ulchet gamhu yulad ben » et Achet, lui aussi, fut enfanté un fils. « Vaikra et shemo Enosh » et il nomma son nom Enosh. « Az uchal likro beshem Hashem » Alors on a commencé à invoquer le nom de Hashem. Alors on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Je traduis provisoirement le mot de Hashem par le mot Dieu, bien que ce ne soit pas la traduction précise, exacte, ça nous renverrait à des analyses un peu trop longues, mais par postulat, disons que, alors, d'après la fin de ce verset, au temps de Enoch, l'histoire de la religion va commencer. Et d'après le chat, le sens direct du verset, de la religion authentique, c'est-à-dire on invoque le nom de Hachem, du vrai Dieu. Nous allons voir immédiatement que Rashi intervient. Au nom du Midrash, il nous dit non, c'est tout à fait autre chose. Alors le paganisme a commencé. Et là, je crois que nous avons la problématique que j'ai commencé par indiquer tout à l'heure en première introduction. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est nécessaire de définir la signification du mot Enosh, qui est le nom du fils de Shet. Le mot de Enosh, en hébreu, signifie l'homme, de même que Adam signifie l'homme, mais de façon très différente. Adam, c'est la nature humaine en général, en chacun. Adam, tous les béné Adam sont Adam, en tant que ben Adam. Enosh, c'est le nom qui désigne le caractère spécifique, génialement spécifique de chaque homme dans l'hébreu biblique. Donc nous sommes tous un ben Adam, mais chacun d'entre nous est seul à être l'Enosh qu'il est. Voici c'est suffisamment précis, précisé en français. Notre maître, M. Gordin, désignait ce thème en parlant, à travers Judas Lévi, du principe d'individuation. On a pu commencer à invoquer le nom propre de celui qui est Dieu, Hachem, parce que l'homme avait atteint, c'est ce qu'indique le mot de Enoch, avait reconstitué en lui la dignité de la personne personnelle, individuelle. Tant que les Bnei Adam n'étaient que Bnei Adam, alors ils étaient reliés à la divinité en général, à Elohim en général. Mais voilà que quelque chose d'autre apparaît dans le lignée de Shet, la capacité de se relier à celui qui est Dieu dans son principe d'individuation. Et cela est donné à l'humanité lorsqu'elle peut être Enosh. Et donc, nous sommes là devant un thème extrêmement dramatique, dans le sens hébreu du mot dramatique, pas dramatique dans le sens grec du mot, drastique, c'est-à-dire extrêmement intense. Il y a là une bifurcation possible. À partir de l'invocation religieuse, de la possibilité de l'invocation religieuse personnalisée, il y a deux bifurcations possibles. Soit l'instauration de la religion authentique du Dieu unique, soit, au contraire, cette basculation dans l'expérience païenne et polythéiste. Et nous avons là apparemment un conflit entre la tradition orale que cite Rashi, pour elle, c'est le paganisme qui commence, et le texte char direct de la Torah, pour elle, c'est la religion du Dieu unique qui commence. En tant qu'elle n'est pas, si j'ose dire, le sens de l'histoire de la société. Le sens de l'histoire de la société, c'est la société de Caïn qu'il s'agit de sauver. En tant qu'elle est la dimension sacerdotale de salut d'une société en péril. Je voudrais bien tenter d'éclaircir ce point. Et je dirais peut-être de façon un peu légère. Et le Créateur n'a pas voulu créer un temple. Il a voulu créer un monde. Et dans ce monde, il y a un temple. Et ce temple a une fonction importante. Bien sûr, à un niveau mystique profond, nous pourrions voir l'histoire du monde comme l'histoire de la construction d'un temple qui serait le monde entier comme temple. Mais dans les étapes de l'histoire historique, nous apparaissent deux niveaux. Le créateur du monde, c'est le créateur d'un monde, en l'âme. Et l'histoire du monde, c'est l'histoire de Caïn, d'abord, de la société des hommes. Mais dans ce en l'âme, pour sauver cette société des hommes dans son péril, alors il faut le temple. Il y a là une cohérence, une structure de la vision, de la signification religieuse de l'histoire selon la Bible, qui est bien précise. Dieu n'a pas créé un temple et a mis un monde autour. Dieu a créé un monde, et dans ce monde, il y a un temple. Alors le monde appartient à Caïn, le temple appartient à Shet et Enosh. Et c'est la première fois qu'apparaît dans le récit la relation strictement religieuse de l'homme à Dieu et la révélation proprement religieuse de Dieu à l'homme, alors que dans le récit précédent, lorsqu'il s'agit de la lignée de Caïn, le problème qui est posé, ce n'est pas le problème religieux, c'est le problème éthique, c'est le problème moral. La sanction de cette humanité qui se perd dans sa chute, c'est la sanction d'un jugement sur l'état de saturation de la violence. Tous les versets qui indiquent les causes immédiates et profondes du déluge sont clairs. Hamas, la violence. Jugement sur l'humanité interpelle l'humanité au niveau du problème moral. Apparaît ici le problème religieux, mais comme dimension du salut d'une société qu'il faut aider dans sa recherche de la solution du problème moral par la dimension sacerdotale. Je redis donc le verset lui-même. Lorsqu'apparaît Enoch, lorsque l'homme est capable d'être la personne individuelle dans la dignité du chacun, lorsqu'on est sorti de ce risque de la société impersonnelle, dévoreuse de la dignité de la personne de chacun, on pourrait employer énormément d'images à ce sujet, et l'humanité contemporaine aussi est inquiète de ce risque de voir la société humaine donner le pas à l'organisation impersonnelle de la cité au détriment de la dignité de la personne personnelle, si j'ose dire. C'est une des problématiques d'inquiétude aussi de la société contemporaine. Mais lorsque l'homme est capable de s'appeler Enoch, d'être une personne par lui-même, alors il peut parler à celui qui est Dieu et lui dire « tu, je tue ». Là, nous nous référions peut-être à Buber, mais je vous renvoie surtout à la grande thèse de M. Levinas, « Totalité et infinie », où ce principe d'individuation de Judas Lévi, qui n'y est pas cité, mais qui est présent en filigrane dans toute l'œuvre de Levinas, est bien mis en évidence. Donc, au moment de Enoch, le problème religieux commence. Du dedans de la problématique du problème moral. Et le texte nous dit « Alaz buchal », alors on a commencé. Cette racine en hébreu, la racine « achel », signifie « débuter »,« commencer ».« Likro beshem Hashem » a invoqué le nom de celui qui est Dieu. Rashi, que nous allons lire immédiatement, va s'opposer à cela. Alors Rashi dit ceci, c'est donc le verset 26. « Azuchal, lashon chulim » Ce terme, nous dit Rashi, ne doit pas être entendu dans son pshat, dans la signification de commencer. Comme par exemple, vous avez dans le substantif les atril, techila, commencement. Techila avec ahet. Mais nous avons une autre racine qui signifie avec les mêmes lettres profaner. Et Rashi nous dit, ce terme doit être compris dans son sens de profanation, non pas dans son sens de commencement. Il y a un point de début. Il y a un point d'exégèse précis sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, que peut-être il y aurait là une définition de la profanation, un commencement qui n'aurait pas de suite, un commencement qui se résorberait dans son début, que ce serait là une des définitions bibliques, hébraïques, de l'idée de profanation d'abord. Mais je continue la lecture de Rashi. « Lashon chulin, likro et shmot ha'adam, et shmot ha'atzavim » Et cela veut dire nommer le nom de l'homme, nommer l'homme et les statues, Bishmon Shel HaKadosh Baruch Hu, par le nom du Saint béni soit-il, de celui qui est Dieu. La Rasotam et l'Ilim, pour en faire des idoles, des divinités païennes, Velikroto et Lakout, et pour les dénommer divinités. Je reviens donc sur ce Rashi, mais je vais tout de suite indiquer quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est que dans la récit d'énumération des paganismes, il faut ajouter celui qui est indiqué par Rashi, lorsque l'homme se divinise lui-même, et qui est peut-être le paganisme le plus grave. À propos de la table ronde de dimanche après-midi, j'aurai l'occasion de vous citer des textes en anthologie, et où il y a un texte important du Midrash qui indique cela. C'est qu'au fond, le niveau le plus grave du paganisme et de l'idolâtrie, c'est lorsque l'homme se divinise lui-même. Et donc là, nous avons le conflit, la tension de lecture extrêmement intense entre la tradition orale citée par Rashi et le texte écrit de la Bible. La Bible dit « Alors on a commencé à invoquer le nom du vrai Dieu, Azuchal Krobeshen Hashem. » Rashi nous dit « Non, alors on a commencé à profaner ce nom en l'attribuant à des véhicules de idoles, à des véhicules de divinités païennes, l'homme et les statues, l'homme et ce que représentent les statues symboliquement. C'est évident que l'hébreu n'a pas considéré, dans son refus de l'idolâtrie et de la figuration des divinités, que c'est la statue elle-même, dans son véhicule de bois ou de pierre, d'or ou d'argent, que l'idolâtre adore. Il adore le symbole qu'elle représente. Il adore la force qu'elle figure. Mais c'est précisément là qu'est le danger de l'idole. Parce que les mythes symbolisés par les statues peuvent être des mythes dévastateurs. Et tant que le mythe est vivant, la statue opère. Mais c'est pas la statue que l'idolâtre adore. Il y a bien sûr un niveau de religiosité, infrapopulaire, parce que le peuple est saint d'esprit. Disons de superstition infrapopulaire, je ne sais pas comment dire, qui serait ce paganisme vulgaire. C'est évident que lorsque la Torah elle-même et le Talmud dénoncent et s'opposent à l'adoration des idoles, eh bien, ça ne s'arrête pas au niveau de la figuration pure et simple. C'est le symbole qui est véhiculé, qui est dévastateur. Et je voudrais, si vous voulez, comparer ce verset avec ce que nous dit la Bible de l'invocation de Dieu par Abraham. Et ça nous fera apparaître l'intention du Midrash cité par Rashi, où il y a-t-il profanation. Et nous l'éclairons immédiatement par la lecture de la citation du Rahim de Volozhin, ce qui me permettra, en deuxième point, à poser la question de fond, qui me semble être la question de fond du sujet qui nous a été proposé, comment la tradition juive s'explique le sentiment religieux païen. Mais je la posais sous cette forme, non pas dans une lecture descriptive, que se passe-t-il lorsque le païen paganise. Et là, chaque école historique aurait sa lecture des événements, chaque école sociologique aurait son hypothèse d'explication. Mais qu'est-ce qui, d'après la Bible, a mené les hommes à ce renoncement au monothéisme originel pour se rabattre sur cette religion des médiations qui chacun véhicule un mythe. Un mythe, tous les mythes sont dévastateurs. Lorsque la Bible parle de l'invocation de Dieu par Abraham, elle dit « Alors Abraham invoqua le nom de Dieu. Vaikra Beshem Hashem. » Avec Enoch, la Bible nous a dit « Alors on a commencé à invoquer le nom de Dieu. » Ça veut dire on a invoqué le commencement du nom. Une partie. Et c'est cela, essentiellement, la définition de l'idolâtrie par rapport au monothéisme hébraïque. Un aspect des valeurs, une dimension de l'absolu, isolée, privilégiée, hypertrophiée, sacrifiant les autres, et là apparaît l'idole. Ce qui nourrit de divinité l'idole, c'est le fait qu'elle se nourrit d'une étincelle de sainteté authentique, mais coupée de l'unité des valeurs, érigée pour elle-même, alors elle devient idole. Et si vous voulez, commencement de l'invocation, on s'arrête là. Au lieu de dire le nom complet, on ne dit qu'une lettre, la première ou la deuxième ou la troisième. On peut prendre le commencement n'importe où dans l'absolu. Eh bien, commencer et s'arrêter là, c'est cela profaner. Donc, au-delà du niveau purement linguistique, qu'effectivement cette racine, Bouhal, peut se lire dans ces deux traductions, alors on a commencé ou alors on a profané, Rashi nous mène plus profondément à nous expliquer l'intention de la lecture de la tradition orale. Ce fait d'avoir commencé, et que cela, c'est cela la profanation, alors qu'Abraham a le courage et ose invoquer le nom de l'unité des valeurs, et non pas ce commencement de nom qui chaque fois fait apparaître une idole. Et donc, nous aurons à nous expliquer simultanément qu'est-ce qui a mené les hommes au renoncement de l'invocation authentique, qu'est-ce qui donne le courage à Abraham de l'invocation authentique. Avant d'y arriver, nous allons lire donc le texte du Rav Chaim de Volozhin. Je vais vous lire simultanément en hébreu et en français pour permettre à ceux qui entendent l'hébreu d'en entendre aussi les nuances. Et j'essaierai de faire que ma traduction française soit la plus littérale et directe. C'est à propos d'un verset de la Bible et une des autres sources des formules qui désignent l'unité de Dieu et qui dit Ve alarta ayom, et tu sauras aujourd'hui, va Sherota el Levavecha, et tu le comprendras bien, ki Hashem hu Elokim, que celui que nous nommons Hashem par le mot qui signifie le nom, Hashem, que lui est ce que vous les païens, c'est pas vous, hein, ce que les païens appellent les dieux, que lui est
les dieux. Qui Hachem ou Ha-Elokim. Vashamayim Imaal, dans le ciel en haut, Ra'alaret Mitahat, et sur terre en bas, En Od, il n'y a rien d'autre. C'est lui qui est toutes ces réalités, entre guillemets, illusions ou réalités, et réalité de l'illusion et illusion de ces réalités, qui sont les dieux dont vous parlez. Et étant, lui, tout cela, il est d'autre part, au-delà, et inaccessible par aucune représentation. Il est tout cela et plus. Hachem ou Ha-Elokim, et non pas l'inverse. L'inverse serait l'hérésie, disons à la limite panthéiste ou panenthéiste, c'est-à-dire d'un paganisme global, total. Les dieux, la formule qui dirait que les dieux c'est lui, cette formule est fausse. Les dieux ne sont pas lui, lui est aussi ce que vous appelez les dieux. Voilà ce que veut nous dire ce verset, parce que c'est suffisamment clair. Dire, le lire à l'inverse, et vous n'avez aucun verset qui le dise, que Elohim c'est Hachem, que Elohim c'est Hachem. Dire que les dieux c'est lui, c'est cela l'hérésie païenne. Mais le monothéisme authentique dit, lui c'est les dieux dont vous parlez. Mais les dieux dont vous parlez ne sont que les dieux, c'est lui notre dieu. Voilà grosso modo, si vous voulez, toute la problématique de notre problème, si j'ose dire. Alors, sur ce verset, enchaîne le Rav Chaim Volozhin, qui Hachem ou Elohim. Ha'evdel, Sheben Elu, Shte Hashemot. Vous, la différence qui est entre ces deux noms, Hachem, Yudkevavke, le tétragramme, et le mot Elohim que nous traduisons par Dieu, la différence est, Sheshem Elohim Ne'emar, Gam Alezé Koar Prati Anim Shach Mimenu Ibarach. Que le nom de Elohim, Dieu, est dit dans notre texte biblique, aussi pour désigner telle ou telle force particulière qui procède de lui. Mais ça désigne un aspect partiel de sa relation de providence à son nom. Et telle force qui sera diagnostiquée comme venant de lui est désignée, lorsqu'elle est désignée par un mot particulier, un nom particulier, soit désigne l'idole si on a coupé de l'unité des valeurs, soit désigne une des manifestations de l'unité des valeurs. Sheshem Elohim Ne'emar Gam Alezé Koar Prati Anim Shar Vimenu Itbarar. Veshem Avaya, alors que le nom par excellence, le nom Ne'emar al Mekor HaKohot Kulam, est dit de la source de toutes ses forces tout ensemble. Mekor HaKohot, l'unité des valeurs. Et l'unité des valeurs est irreprésentable, parce que chaque valeur peut être représentée. Mais leur unité est au-delà de la représentation. Et c'est cette unité des valeurs que nous désignons par le nom ineffable de Havaya. Alors que le mot de Elohim peut désigner une force diagnosticable. Lorsqu'elle est représentée, isolée de l'unité des valeurs, elle fait apparaître une idée. J'arrive à essayer de formuler ici, au fond, un paradoxe difficile à dire, que les païens ont raison d'avoir tort. Et non pas ont tort d'avoir raison, mais ont raison d'avoir tort. En ce sens que ce qu'ils désignent sont des forces divines réelles. Mais où est leur tort? Et en cela, ils avaient raison. C'est de la divinité dont ils parlent. C'est dans la défigure qui fait que, coupé de l'unité des valeurs, apparaît quelque chose de monstrueux. Veshem Havaya Ne'emar al Mekor HaKohot, alors que le nom de Havaya est dit de la source des valeurs, Kulam, tout ensemble, Shenim Shachim Imenu Ibarah, qui procède de lui. Ou que Moshe Amuzal, comme ont enseigné nos maîtres, Bevereshit Rabba, dans le Midrash Rabba, Shenizkir, Achar Gmar Kol Maase Bereshit, Shem Malé, Al Olam Malé. Que le texte de la Bible a mentionné, à la fin du récit de l'œuvre du commencement, un nom complet sur une œuvre complète. Chez Shem Havaya, car le nom de Havaya, ou Mekora de Kula, c'est de l'araméen qui signifie Mekora, Makora Kol en hébreu, est la source de tout. Havaya, c'est la source de tout. Chez Shem Havaya, ou Mekora de Kula, de Kula Be, tout est en lui. Ou Be'et Abriya, mais au temps de la création, Nimshar, Bechol Mahamar, Koach O Kochot Pratim, apparaissent, procèdent de lui, en chacune des paroles créatrices, une force ou des forces particulières qui procèdent de lui. Mimekora de Kula, de cette source unique, Niskar Bechol Maase Bereshit, Rak Shem Elohim Levad. Et c'est pourquoi, dans tout le récit de l'œuvre du commencement, n'est mentionné que le mot de Elohim seulement, pour dire l'œuvre du Dieu créateur, qui, dans chaque Mahamar, dans chaque Amira de et Dieu dit, que soit, et est à l'œuvre une des forces qui procèdent de lui pour faire être une des modalités de la créature, et là c'est le schéma Elohim qui est employé pour dire Dieu créateur. Mais après que l'œuvre du monde, de la création du monde est achevée, Kol HaKochot, Kefish et Gazra Retsono, dans l'action de toutes les forces qui avaient été mises en œuvre, ainsi qu'a décidé sa volonté, les Tzorecha Olam, afin que le monde existe, Azneemar Beyom Asot Hashem Elohim Shem Malé. Alors il est dit, c'est au début du chapitre 2, le jour où Hashem, qui est Dieu, a fait ciel et terre. Pendant tout le premier chapitre, c'est que le nom Elohim, alors que lorsque le Olam est Malé, lorsque le monde est achevé, du point de vue de sa création, de son histoire, alors c'est Hashem Elohim qui est dévoilé. Vezéou, et c'est cela que voulait dire notre verset de tout à l'heure, Ve'adarta Ayom, et tu seras aujourd'hui, Ve'ashevotel Levavecha, et tu le comprendras bien, qui Hashem ou Elohim, que c'est Hashem qui sont ce Elohim, vous comprenez pourquoi il y a une forme plurielle, Dieu, mais dans un terme collectif qui récapitule tout l'ensemble infini des forces particulières, chaque force particulière ayant fait une des divinités du paganisme. Nous ne les reconnaissons plus dans leur confrontation avec l'univers spirituel, entre l'univers spirituel hébreu et l'imagerie des paganismes. Parce que les cultures, les ethnies, les subjectivités, les singularités ont donné un folklore tellement loin de la pensée sans image des hébreux qu'il nous est très difficile de reconnaître de quel attribut de la divinité on a fait telle divinité, telle idole. Je ne veux pas rentrer dans une identification des paganismes, ce n'est pas notre rôle. On va vous expliquer qui est Apollon, qui est Adonis, et Vénus et le reste, mais nous parlons peut-être un peu de cela. Pour répondre d'ailleurs à une de vos questions, monsieur, à une des soirées, lorsque dans la table ronde de dimanche après-midi, on essaiera de diagnostiquer les paganismes contemporains. Mais les sages de notre temps ancien, nous n'avons pas d'antiquité, savaient diagnostiquer les attributs du vrai Dieu telles qu'elles avaient été défigurées dans telle ou telle divinité païenne, et ériger en idole, parce que coupée de l'unité des valeurs. Monsieur Dufour, l'autre soir, avait fait un peu allusion à cela, pour ceux qui avaient assisté à la conférence de Monsieur Wolski, en disant que le Sanhedrin était, en citant cette citation du Sanhedrin, le Sanhedrin était composé de 70 sages d'Israël, dont chacun d'entre eux devait, pour pouvoir faire partie du Sanhedrin, pouvoir maîtriser aussi et une langue étrangère et l'idolâtrie correspondante. Ce qui fait que lorsque le Sanhedrin se rassemblait, toute l'humanité entière se rassemblait derrière les juges du Sanhedrin. Chaque juge d'ailleurs était porte-parole et défendant les intérêts de telle ou telle culture humaine, l'intégrant dans l'unité des valeurs. Il y a un terme très important, peut-être qu'il sera un jour aussi un sujet de séminaire. Donc je reviens à ce que vient de dire le Rav Haïm de Volodjin. Haïnou, shelo lechaven lishtarbed ou litdavek veshum avoda lehezekoach ou kochot prati. Il y a dans ce verset, et tu sauras que lui seul est les dieux, et il est plus, mais premièrement, ça à ce niveau, afin de nous enseigner, de n'avoir jamais intention de s'asservir et de s'attacher, dans le sens de Bekout, qui est plus fort que attachement en français. Beshum avoda, en aucun culte, les écoires, à aucune force, au kochot, ou force au pluriel, pratique une particulière, asher bashamayim et maral, qui serait diagnostiqué dans le ciel en haut, asher baret mitachat, ou sur terre en bas. Rak lechaven hakol leshem haetzem. Mais que toute intention de culte doit être intentionnée, je ne sais pas si on dit en français, dirigée vers ce nom qui représente le nom de l'essence de celui qui est les dieux. Amiouchad, dans son unicité, dans son unité. Il doit Hashemo, Mekora ou Klala, Shelklal. Source et totalité de tout. De tout, Klala Kochot, de l'ensemble des forces, Kulam toutes, Shenim Shechum Imenu, qui ont procédé de lui. Mais Zohaïta, c'est là qu'on arrive au sujet. Et c'est cela qu'était Korinian, toute la question à Akumaz de l'idolâtrie. Chez Dorot Arishonim, des premières générations, Mime Dor Enosh, depuis la génération de Enosh. Chez Azitrilou Barolam, Inyana Hakumaz, car alors a commencé dans le monde ce sujet des idolâtries. Que Moshe Katoub, comme il est écrit dans le verset, Azoucha Likro Beshem Hashem. Alors on a commencé à invoquer le nom de Hashem, mais en l'attribuant à des forces éclatées, à des forces paganisées. Shayu Ovdim, et là nous sommes renvoyés à un diagnostic des paganismes anciens, mais que je voudrais quand même indiquer, donc indiquer une permanence, bien que leur forme se soit laïcisée dans la civilisation contemporaine. Et les paganismes authentiques et que désigne la Bible dans son combat, ce sont les paganismes astrologiques. Et il faudrait indiquer derrière le terme de astrologie, qui s'est lui aussi notablement dévitalisé, le terme qu'employaient les historiens des religions, surtout à la fin du siècle dernier, en particulier dans les écoles allemandes, le terme d'astrobiologie. C'est-à-dire ce diagnostic que les forces célestes représentées par les astres, les planètes, Kochavim ou Mazalot, sont des forces divines. Je vous renvoie pour le détail à la citation qu'avait fait M. Rowski du passage de Maïmonide à ce sujet, où la formulation est très claire. Chaïm, on dit, car ces païens s'asservissaient, les Kochot à Kochavim, aux forces des étoiles, ou vers Mazalot, et des constellations. Vous voyez derrière tout le problème des religions astrologiques, l'horoscope, etc. Kolechad le Kochavim Mazal, Minuchad, Shibirer le Hatzma. Chacun a une planète ou une constellation particulière dont il avait diagnostiqué pour lui-même quelle en était sa source d'être. L'eau, chez Chachav, Kolechav, et ça ne signifie pas que chacun de ces païens pensait, chez Oto Akochav ou Eloka, chez Baraït Akol, que cette étoile, cette planète, cette constellation était le Dieu qui avait créé tout le monde. Chez Haré, mais Olam, car depuis toujours, Ayasuma Befiel, c'était une formule habituelle en leur bouche, chez la Rakumas des païens, l'Ikroto et Barachemo de l'appeler lui, Elahad et Elahim, le Dieu des dieux. Kemosha Mouzal, comme l'ont cité nos maîtres. C'est-à-dire ici, il y a l'indication que dans tous les paganismes, il avait la mémoire qu'au-delà, au-dessus de cette hiérarchie infinie des dieux, des divinités de la paganicité, il avait le Dieu des dieux, il y avait l'être suprême, comme on l'a dit plus tard, en langage laïcisé. On n'avait jamais oublié cela. Mais on a fini par l'oublier. Et à une certaine époque, étape de l'évolution du paganisme, on avait oublié qu'il y avait le Dieu des dieux, on ne parlait plus que des dieux. Vechen Amar, Malachi Anari, Vetochachto le Israël. Et ainsi, Malachi le prophète s'est exprimé dans son exhortation à Israël, qui m'imisrach Shemesh Radmebo, car depuis l'Orient du monde jusqu'à son couchant, et je crois qu'il faudrait dire d'ailleurs l'inverse, depuis le couchant du monde jusqu'à son mort, son. Le vent, je ne sais plus comment dire en français. Gadol Shri Bagoï, mon nom est grand chez les nations. Mais chacune d'entre elles n'en invoque qu'un surnom, si je puis. Qui Gadol Shri Bagoï Amar Hashem Tzevaot. Car mon nom est grand chez les nations, dit Hashem Tzevaot. Et là, chez Trilat Taout Doreno Shaya. Mais l'erreur de la génération d'Enoch était le commencement de son erreur, était. Chez Rachou, mais chez Bouche d'Artan, qu'ils ont pensé dans leur. Chez Bouche d'Artan, intraduisible ça, chez Bouche d'Artan, dans leur dégradation spirituelle, qui ramachait vers la Shamayim Kevodo. Il indique ce qu'il veut dire ici en citant un verset de Psaume. Que Dieu est élevé, et c'est sur le ciel, sur les cieux qu'est sa gloire, il est trop loin. Il est tellement transcendant qu'il est inatteignable, qu'il est inaccessible. Et que ce n'est pas de son honneur et de sa gloire d'être providence et d'être mashliach, pas surveillé mais veillé sur les créatures de ce monde shafel, de ce monde, de ce bas monde. Et c'est pourquoi ils ont pensé qu'il avait délégué chez Esir Ruiba, qu'il avait délégué lui Ashgarato, sa providence, mais. Slicha, non, qu'il avait retiré des créatures sa providence, Umsaram, les Kochot à Galgalim, et qu'il l'avait délégué aux forces cosmiques, vers Mazalot et aux constellations, chez Emania Higuz et Aolam, que dirige ce monde-ci, Kirtzonam selon leur volonté, vers Nershav Eslam, et ils pensaient, leur conception était, Choulin veissour gamour vechouf sagdola negdo idbara. Il pensait que c'était un profané, un blasphème total, que d'oser prier lui, l'itpalel lishmo idbara, de s'adresser à lui, que c'était choutpa. Vous avez entendu le mot en hébreu. En français, on peut traduire toupé, scandale. Oui, de s'adresser à celui qui est Dieu, qui sommes-nous? Nous commençons un peu à nous approcher de notre problème. Quelle heure est-il arrivé? Un irpad vanora, de lui dans son monde de gloire et redoutable, les bakesh neito, de demander à lui nos nécessités. Srachere mashpalim, nos basses nécessités.
Les autres, je t'arrête, mais c'est pourquoi ils se sont asservis. Atman, ils ont asservi leur personne. Rivnu, coloniale à Abladam, ils ont intentionné, c'est pas pensé, mais c'est l'idée, toute leur culte, bakashata, et leur prière, les corps à combattre, à ces forces partielles des planètes et à Mazarot et des étoiles. Et chacune de ces, l'Ofan, Asiatam, Abumaz, et chacune de ces cultes, chacun de ces cultes avait donc sa liturgie particulière. Et ils intentionnaient à eux leurs sacrifices et leurs encens. Zivuram, Vekturam et Léa. La Yumachim Banken, bon, je m'arrête là parce que je vois que ça suffit, c'est une description extrêmement précise de ce qui est arrivé dans l'apparition de Bérette. La question que je voudrais poser, et je voudrais la poser à propos d'un contexte de récit public apparemment tout à fait autre, mais qui me semble désigner notre problème, c'est ceci. Quelle est l'origine de cette déception, manque de courage, renoncement à être lié au Dieu unique? Vous voyez comment le Rav Chaim de Volozhin a formulé ce renoncement. C'est trop pour nous, c'est trop grand pour nous, il est trop loin, inaccessible. Sa providence, lui, directement inouïe. Nous avons des providences de médiateurs. Et c'est l'origine de tous les paganismes et de toutes les idolâtries. Peut-être que je ferai une petite parenthèse tout à l'heure concernant la catégorie du médiateur dans le christianisme. C'est un sujet extrêmement délicat, ravige, qu'on est sensible. Peut-être nous en parlerons plus dans le troisième séminaire, parce que nous parlerons du problème du christianisme et des prophéties, mais peut-être qu'il est nécessaire quand même de mettre cela en évidence. Malgré tout, ne serait-ce qu'en parenthèse. Parce que là, il y a un cas particulier d'une religion d'Israël avec le médiateur. Mais quel est ce médiateur? Et vous vous rappelez de la catégorisation de la théologie chrétienne, Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais oui, mais Dieu le Père est trop loin. Et d'ailleurs, il est redoutable. Il est à la fois trop loin et redoutable. Et il me semble que donc on va être sauvé, parce qu'on peut se relier à une médiation beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible, celle du Fils qui lui est tout amour, c'est-à-dire proximité, ou toute proximité, c'est-à-dire amour. Vous m'excusez du terme, je veux croiser la sensibilité de personne, mais je suis obligé de traduire de l'hébreu. Ce paganisme-là aussi a été refusé par le judaïsme. Parce qu'il s'agit, enlevant le pathétique théologique négatif du mot païen, prenons les choses au niveau étymologique, parce qu'il s'agit finalement du même processus. C'est-à-dire, lui est trop loin et redoutable, alors grâce à Dieu, c'est pas tout. Mais c'est lui quand même. Vous voyez, c'est précisément la définition de l'analyse que nous avons dans l'analyse que nous avons eue par le Rav Chaim de Volozhin. Je posais la question de cette manière. Quel est au fond le mythe originel qui fait tomber le projet du croyant dans l'échec du paganisme? Et je crois que j'ai, en citant, en vous donnant cette citation et ses corollaires de celle de Maïmonide, j'espère avoir suffisamment marqué cela, c'est que il s'approche de ce problème en essayant de restituer la dignité du sentiment religieux païen, mais en accusant son échec, en désignant le point de l'échec. Et j'avais cité dans une des études du matin une phrase du Talmud qui est extrêmement forte à ce sujet. Si tu vois un idole, un idolâtre prier son idole, ne te moque pas de lui, car c'est ton Dieu qu'il croit adorer, mais qu'à son Dieu. Et là, c'est une situation très précise de la position du pays vis-à-vis du sentiment religieux des païens.
Voilà, c'est une de nos premières. Je me souviens de l'histoire de Jacob dans le monde, à Travail, et rencontrant les vertus de Travail. Je vais tenter de vous donner un peu de temps. Je vais vous dire le nom de cette galère. Ah oui. Je vais vous dire le nom de cette galère. Je vais vous dire le nom de cette galère.